Cette Seigneur a mis à cœur de partager ce, le titre serait l'épreuve ou les épreuves. Et quelqu'un a dit, un chrétien qui n'a pas d'épreuve, c'est un pauvre chrétien. Le but du Seigneur en nous permettant d'avoir des épreuves, c'est simplement de rapprocher de son cœur. Sentir battre son cœur pour moi, pour nous. Déjà son peuple, en Deutéronome 8, verset 14, il nous a dit ceci, « Ton cœur ne s'élève pas, ces paroles te sont données, afin que ton cœur ne s'élève pas, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait marcher dans le désert, grand et terrible, désert de serpents brûlants et de scorpions, qui t'a fait manger la manne dans le désert, que tes pères n'ont pas connu. » Vous savez pourquoi ? Afin de t'humilier et afin de t'éprouver pour te faire du bien à la fin. Oui, quel merveilleux sauveur je possède, quel merveilleux Dieu auquel nous croyons, vraiment. La première grande épreuve, nous la trouvons en Éden. Le Seigneur avait dit à nos premiers parents, tu manges de tout l'arbre qui est dans le jardin. Rien n'est empêché. Sauf un, celui de la connaissance du bien et du mal. Première épreuve. Et nos premiers parents ont succombé. Et donc, les épreuves sont nées de là, avec leurs conséquences. Il y a eu beaucoup d'épreuves depuis la chute en Éden. Et les conséquences ultimes, le Seigneur l'avait prononcé à nos premiers parents, c'est la mort. Et entre-temps, que des preuves. Que des preuves avant l'issue fatale. Et son amour pour l'humanité n'aurait pas pu être si glorieusement manifesté que s'il n'avait pas existé pour nous montrer la grandeur du sacrifice de notre Seigneur bien-aimé, qui a tant souffert. Son sacrifice fut nécessaire pour annuler la mort, parce que c'est sa mort à lui qui a annulé ce ravage-là. Christ a vaincu la mort, il est ressuscité. L'épreuve peut être générée par différentes raisons, mais elles ont pour but l'accomplissement des voies du Seigneur. Nous verrons quelques exemples dans la Bible, Joseph notamment, il y en a plusieurs, Moïse en a connu, Daniel, Job, les compagnons de Daniel, et finalement notre Seigneur Jésus a connu l'épreuve suprême, celle de donner sa vie pour me racheter à grand prix. Dans l'ancienne alliance, nous rencontrons celle de Joseph pour commencer. Mais la première épreuve, c'est celle de notre foi peut-être. L'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt. Qu'elle soit trouvée, tournée à louange et à gloire à la venue du Seigneur Jésus. L'épreuve de votre foi. J'ai déjà raconté plusieurs fois l'histoire du fondeur, celui qui, dans le creuset, met le minerai qui contient l'or ou l'argent. Il faut qu'il soit soumis au feu afin que ce métal noble, que ce soit l'or ou l'argent, surnage. Et vous savez quand est-ce que le fondeur arrête la chaleur qui produit ce phénomène, quand il voit son image dans le miroir que constitue le métal précieux qui est venu à la surface. Quelle image pour nous. Chers amis, le Seigneur va arrêter l'épreuve que tu rencontres quand il verra son image de confiance en son Dieu, malgré ce qu'il devait endurer. Il savait que l'Éternel ne répondrait pas à sa prière instante. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout de nos épreuves, parce que le Seigneur ne nous abandonne jamais, et il a mesuré l'intensité. L'histoire de Joseph, fils de Jacob, petit-fils d'Abraham. Son père l'envoie vers ses frères, pour savoir s'il se porte bien, parce qu'il s'en était allé hors de Hébron. Sa première réaction était « Je cherche mes frères ». À quelle occasion dit-il ça? En Genèse 15, un homme trouve Joseph et il errait dans les champs. Et l'homme lui demanda, disant « Que cherches-tu ?» Réponse « Je cherche mes frères ». On trouve en tout cas dans l'histoire de Joseph une image de Christ. Il est, ce qu'on dit, un type de Christ. Parce que nous allons voir que plusieurs de ces circonstances vécues rapprochent l'histoire de Christ dans celle qu'a connue Joseph en particulier. À cause de la jalousie de ce dit frère, depuis son rêve, vous savez que Joseph a fait un rêve et il l'a raconté, peut-être maladroitement, à ce frère. Il l'a raconté à son père. Il a dit, je vous voyais dans mon rêve, venez vous prosterner devant moi. Et toi aussi, mon père, tu venais vous prosterner devant moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce sont ces rêves? Alors ses dix frères disent, venez, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes et nous dirons, une mauvaise bête l'a dévoré. Ça se trouve en Genèse 37, verset 20. Et nous verrons ce qu'adviendront ces songes. Ruben entendit cela, son frère aîné, et il le délivra de leurs mains, et il dit, ne le frappons pas à mort. Il arriva, verset 23, lorsque Joseph fut venu auprès de ses frères, qu'ils le dépouillèrent de sa tunique, et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Et la parole de Dieu dit, la citerne était vide. Tiens donc, pourquoi ce détail? Parce qu'à un moment donné, ils vont dire, ne le tuons pas, mais vendons-le à une caravane d'Ismaélites qui passait par là. Alors ils sont allés vers la citerne et ils ont tiré Joseph vivant. Il aurait dû être mort. Parce qu'une citerne qui n'a pas d'eau, en plein désert, c'est plein de serpents venimeux et c'est plein de scorpions. Alors ses frères auraient dû voir que Dieu l'avait délivré de la morsure des serpents et le sein des scorpions. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu dans leur jalousie qu'il fallait se débarrasser de cet individu qui avait fait des rêves, d'autres qui avaient suscité la jalousie dans leur cœur. Joseph se laisse emmener sans résistance. Il n'a rien à opposer à ses frères qui veulent l'éliminer de toute manière, de s'en débarrasser. Combien d'êtres humains veulent se débarrasser de Dieu et à une époque en particulier? Ce que nous vivons comme événement maintenant n'a rien d'autre comme but de se débarrasser de la pensée même de Dieu. C'est déjà écrit dans le psaume 2. Débarrassons-nous de ces lois qui nous empêchent de vivre notre vraie liberté. Alors on en met pas mal d'autres lois. Épouvantable. C'est le déclin moral. Vous l'avez constaté comme moi depuis bien longtemps. Et la Bible dit que ça ira de mal en pis. Pas la peine d'énumérer, vous les connaissez aussi bien que moi, ces lois liberticides qui ont comme vernis le fait de libérer l'homme, de libérer la femme, de libérer les enfants. Je n'en dis pas plus, chers amis, vous mettrez tout le contenu qui convient à ces déclarations-là. Et pourtant, il faudra attendre Genèse 42, et nous sommes au 37. À Genèse 37, il faudra attendre 42 pour savoir que une grande détresse a gagné le cœur de Joseph. Comme Christ, il se laissait amener comme une brebis sans défense. Et cependant, le verset 21 de Genèse 42 dit certainement, nous sommes coupables à l'égard de notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce. Ça se passe au moment, un peu avant, où il se fait reconnaître par ses frères, lorsqu'en Égypte, il est appelé le sauveur du monde, parce qu'il a engrainé, c'est le cas de le dire, une abondante récolte qui devait nourrir et sauver l'Égypte d'une famine qui allait durer 7 ans. Vous connaissez bien ces passages-là. Alors ils l'ont vendu pour 20 pièces d'argent. Ils l'ont vendu à la caravane d'Ismaélite qui allait en Égypte avec des aromates pour 20 pièces d'argent. Notre Seigneur a été livré pour 30. Vendu comme un esclave à Potiphar, un officier du pharaon qui est en même temps garde de la prison. Alors, accusé faussement par la femme de Potiphar, notre Joseph est emmené en prison. Vous connaissez l'histoire. Il va y rester 10 ans. 10 ans de prison. Et vous savez ce qui a maintenu Joseph? C'est, à 2 reprises, l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel sera avec vous. Pour vous garder dans votre épreuve. Il sera ensuite reconnu par ses frères. Vous connaissez la fin de l'histoire. Personne ne s'est présenté dans cette réunion de famille quand Joseph s'est fait reconnaître à ses frères. Personne n'est au courant, peut-être, de ma prise de ce colloque singulier que j'ai eu avec mon Seigneur. C'était avec lui que j'avais affaire directement. Et c'est lui qui m'a sauvé. Et j'en étais conscient. Mais quelque chose que vous connaissez aussi si vous avez rencontré le Seigneur dans votre détresse, dans votre incapacité de vous sortir de cette situation de péché qui nous envahissait. Il s'agit d'une rencontre personnelle avec le Sauveur et je vous ai dit que je me souvenais de la date, juin 56. N'hésitons pas à raconter notre propre rencontre à nos enfants. Demandons à notre Seigneur de nous faire saisir un moment favorable, un moment fortuit, et qu'il nous donne les mots, les expressions, simplement l'histoire de notre conversion, qui aura peut-être un impact sur celui ou celle que nous aimons et que nous souhaiterions avoir avec nous dans l'éternité, pas vrai? Revenons à Joseph, il sera adulé comme sauveur du monde. D'abord, il réunira toute sa famille en Égypte et il en prendra soin jusqu'à la fin de sa vie. Qui pourrait endurer un tel parcours avec une telle confiance dans le Dieu de la délivrance, de sa délivrance? Parce que non seulement il a vécu 10 ans de prison, mais le Seigneur a permis qu'il en ajoute 2. Vous vous souvenez de cette rencontre avec les chansons le panetier qui, 2 ans plus tard, se sont souvenus de Joseph en racontant à un pharaon qui venait de rêver ces 7 vaches maigres, ces 7 vaches mancasses, ces 7 épis vigoureux et ces 7 épis séchés. Nous ne souvenons que quelqu'un qui était en prison avec nous, 2 ans plus tard. Qu'est-ce qui pourrait soutenir une telle épreuve? 12 ans de prison. Et puis alors, il devient le 2e après Pharaon. Le Seigneur est dans le ciel, ressuscité, mis à la droite du Père, éternellement vainqueur. Quelle faveur nous avons de connaître ces choses et d'y croire, d'y ajouter foi, vraiment. Qui peut nous l'ôter cette foi-là? D'autres épreuves, celles de Daniel et de ses compagnons. Anania, Michaël et Azaria qui ont eu leur nom changé en des noms païens. Des noms de Nebuchadnezzar leur avait donné, Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont peut-être mieux connus comme cela. Là aussi, la jalousie est intervenue pour les faire condamner. Mais l'Éternel délivrera son serviteur Daniel, qui est jeté dans la fosse au lion, en fermant la gueule des lions. Mais ses ennemis, qui sont jetés par Pharaon dans la fosse au lion, ils ne sont pas encore parvenus au fond de la fosse, qu'ils étaient déjà dévorés par les bêtes fauves. Vous voyez ? Le Seigneur est juste. Le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous vengera du mal qu'on nous a fait. Le Seigneur vengera son peuple du mal qu'on lui fait. Je bénirai ceux qui te béniront. L'Éternel avait dit cela à Abraham. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Non seulement lui, mais aussi leurs trois compagnons à qui le monarque Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor leur déclare ceci. Maintenant, si vous entendez en Daniel 3, verset 15, si à ce moment vous entendez le son du cor, de la flûte et de d'autres instruments de musique, si vous êtes prêts à vous prosterner et adorer la statue que j'ai mise, quelques petits points. Mais si vous ne l'adorez pas, à l'instant même, vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ce monde, je voudrais que nous nous conformions à ces lois, que nous nous conformions à ces valeurs, à ces idéologies. N'y consentons en aucune manière. N'y consentons en aucune manière. Romains 12, 2, nous dit l'apôtre Paul à ce moment-là, ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur, bonne, agréable et parfaite. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent à Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire que nous te répondions sur ce sujet. Daniel 12, 3-12. S'il en est comme tu dis, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main et il nous délivrera. Sinon, sache que nous n'adorerons pas ta statue. Quel culot! Est-ce que devant un monarque, nous aurions le culot de répondre ainsi? Quand on pourrait nous condamner, quand on se présente devant des pasteurs de l'Église persécutée et qu'on leur dit, si vous ne reniez pas votre Dieu avec un revolver sur la tempe, voilà ce qui va t'arriver, et le coupard, et il y a une veuve et des enfants orphelins. Nous le savons, parce que nos chers frères ne se sont pas pliés aux menaces qu'on leur a proférées. Nous n'adorerons pas ton Dieu. Alors le roi, dans sa fureur, fut chauffé 7 fois plus la fournaise, et jeta les 3 personnes. Il est stupéfait. Tiens, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Et je vois 4 personnes, dont un qui semble être un fils de Dieu. Dans la fournaise ardente, dont ceux qui ont jeté les amis de Daniel dans la fosse étaient brûlés vifs, étaient anéantis à cause de l'ardeur de la fournaise. Ils sont jetés, ils sont vivants. Et il y a un quatrième qui est avec eux. Donc, mes amis, quand la fournaise de nos vies est intense, une quatrième personne viendra pour nous en délivrer. Nous en avons l'assurance parce que nous croyons la Bible. Nous savons qu'elle est vraie et nous savons que ces choses sont arrivées. Ce ne sont pas des légendes. Ça alimente notre foi et ça nous donne la certitude que quelles que soient les pleurs que nous traverserons, le Seigneur nous en délivrera. Voyons le cas de l'apôtre Paul. Sa rencontre sur le chemin de Damas avec Jésus fera de lui l'apôtre des nations. Étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5 de l'acte 9, il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors ses compagnons accompagnent celui qui est aveuglé par la lumière intense qui est parue dans le ciel à ce moment-là, parce qu'il est devenu aveugle pendant 3 jours. Vous le savez, ce sont les choses que nous savons très bien, mes chers amis. Mais alors, le Seigneur envoie Ananias, un ami, pour lui dire, « Va, rencontre quelqu'un qui est en train de prier et délivrerai. Mais Seigneur, nous savons qu'il fait beaucoup de mal à ton Église. Pourquoi m'envoies-tu ? » Réponse du Seigneur, acte 9, 15, le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. » En réalité, quelques épreuves que nous pouvons citer de l'apôtre Paul. Vous le direz, nous ne sommes pas destinés à être un apôtre Paul, sans doute. Mais écoutez bien, et vous lirez vous-même la suite de ce passage de 2 Corinthiens 11, 23. Dans les travaux abondamment, dit-il, sous les coups excessivement, dans les prisons surabondamment, dans les morts souvent. Le verset 24, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Au verset 25, 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. Et il y en a 17 autres épreuves que l'apôtre cite dans ce passage de 2 Corinthiens. Je vous invite à relire pour vous montrer combien le Seigneur a permis que s'accomplisse sa parole qui disait « Je vais lui montrer, Ananias, combien il doit souffrir pour mon nom. » Mais béni soit le Seigneur qui nous a donné l'apôtre Paul pour recevoir tous ces livres. C'est celui qui a écrit le plus, semble-t-il, pour l'Évangile et pour les épîtres qui nous sont si chères. Il dira à plusieurs reprises, le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a délivré. Le Seigneur s'est tenu près de moi et il m'a soutenu. Jusqu'au moment de son épreuve suprême, parce qu'il subira le martyre et à un moment donné, il sera exécuté par Néron, comme on le sait. Alors l'exemple suprême, c'est celui de notre Seigneur bien-aimé. Le but de notre Dieu en envoyant le Seigneur, c'est de sauver l'humanité perdue. Après le sacrifice de notre Seigneur bien-aimé, qui était la seule solution pour le salut de l'humanité. Lisons ce passage en Hébreux 12, verset 2. Fixant les yeux sur Jésus, c'est encore notre Seigneur bien-aimé et son eau bénie qui nous donne la capacité de résister et de ne pas nous décourager. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, il s'est assis à la droite de Dieu, à la droite du trône de Dieu. Considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas découragés dans vos âmes. Connaissons de mémoire ce qu'a traversé notre Seigneur en Gethsémané et en Golgotha. Épisode d'une telle intensité que nous ne pourrons même jamais sonder ce qu'a connu le Seigneur, notre Sauveur bien-aimé, pour mes péchés, pour les péchés du monde. Quelques traits toutefois, parce que ça vaut la peine de relire quelques passages qui nous édifieront dans le psaume dit messianique, le psaume 22, le psaume 40 et le psaume 69. Je voulais lire quelques traits. Au psaume 61, verset 1er, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusque dans l'âme. Je suis enfoncé dans une boue profonde. Je suis las de crier. Ceux qui sont assis dans la porte parlent contre moi. Je sers de chanson aux buveurs. Délivre-moi du bourbier. Ne cache pas ta face de ton serviteur. Je suis en détresse, réponds-moi. J'ai entendu que quelqu'un eut compassion, mais il n'y a eu personne, et des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. » C'est David qui écrit cela au psaume 69. Et au psaume 40, nous trouvons ces passages. L'appel de Dieu qu'a entendu le Seigneur. Au sacrifice et à l'offrande de gâteau, tu n'as pas pris plaisir. Alors, j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Et au verset 12, des maux sans nombre m'ont entouré, mes iniquités m'ont atteint. C'étaient les miennes, c'étaient les nôtres, c'étaient celles du monde entier qui croira en Christ. Mes iniquités m'ont atteint, elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête. On imagine peu le poids de mes péchés sur les épaules de mon Sauveur. Et au verset 22, qui est l'essentiel du psaume, parce qu'il contient tellement de points caractéristiques que le Seigneur a enduré, notamment à la croix. « mon Dieu », verset 1 du psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« Te tenant loin de mon salut. »« Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds point. »« De nuit, il n'y a point de repos pour moi. » »« Nos pères se sont confiés en toi. »« Ils ont crié vers toi. » Tu leur as répondu, mais moi je suis un ver et non point un homme. L'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Il se confie à l'Éternel qu'il le fasse échapper. C'est une parole que le Seigneur a entendue, qu'on lui lançait comme un défi pour le faire descendre de la croix. L'ennemi, le diable, Satan, savait quels étaient les éléments qui pourraient peut-être faire fléchir notre Seigneur bien-aimé pour ne pas accomplir son œuvre de rédemption. Il me contemple, il me regarde. Il partage entre mes vêtements et sur ma robe, il jette le sort. Verset 19, ma force, hâte-toi de me secourir. Délivre mon âme de l'épée. Verset 21, sauve-moi de la gueule du lion. Tu m'as répondu entre les cornes des buffles. Des taureaux de Bazan m'ont entouré. Le Seigneur a connu des étapes tellement douloureuses, tellement cruelles. Et notamment, tu m'as délivré. Il a confiance en son Dieu qu'il a délivré entre les cornes des buffles. Une de nos connaissances qui avait fréquenté l'Afrique nous disait ceci, que quand un buffle prend une victime, que ce soit un être humain ou que ce soit un animal, il le lance en l'air entre ses cornes jusqu'à ce qu'il soit en pièces. Le Seigneur a connu cette douleur profonde-là. Un déchirement immense. C'était pour moi. C'était pour toi, si tu le crois. N'aimerions-nous pas un sauveur aussi merveilleux que ce sauveur-là? Impossible de rester indifférent devant de telles déclarations aussi intenses de douleur. Et en Apocalypse 12, 2, verset 2, nous lisons ceci. Je connais tes épreuves, je connais tes œuvres, ton travail, ta patience, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et en Matthieu 24, il est dit que dans les derniers temps, les hommes auront un amour qui faiblira. À cause de l'iniquité qui prévaut, L'amour de plusieurs sera refroidi. Est-ce que ton amour, est-ce que mon amour peut faiblir? Eh oui. Peut-être à cause de l'iniquité qui nous entoure. On se dit à quoi bon? Le Seigneur a promis sa venue depuis 2000 ans et nous ne voyons rien venir. Sache que le Seigneur est fidèle et qu'il accomplira sa parole jusqu'au bout. Tu as la première église d'Éphèse, dans cette église de chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, la première église, il lui dit, tu as abandonné ton premier amour. Je connais tout ce que tu veux. Il connaît tout ce qui se passe, y compris dans les cœurs de chacun de ceux qui sont ablénis. Le Seigneur le sait. Si mon amour est fort, si mon amour est puissant, si ma foi est solide. Tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que c'est que le premier amour? Je ne sais pas vous, mais quand j'ai connu le Seigneur, j'aurais été capable, je pensais, d'aller convertir le pape. La fidélité au Seigneur, ceux qui le craignent, tout ira bien. Mais évitons à tout prix les pièges de l'ennemi, car seul le Seigneur pourra nous en délivrer. Retenons le secret de Joseph. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Est-ce que l'Éternel sera avec toi? Tu le crois? En conclusion, je voudrais citer trois versets d'encouragement pour chacun d'entre nous. Qui est sage, psaume 107, 43, qui est sage prendra garde à ces choses et comprendra les bontés de l'Éternel. Car qui craint Dieu sort de tout. Ecclésiaste 7, verset 18. Je crierai au Dieu très haut qui mène tout à bonne fin pour moi. Ça se trouve dans le psaume 52, 7, verset 2. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, d'avoir été jusqu'au bout, jusqu'à l'achèvement de ta venue sur cette terre qui consistait à offrir ton corps en sacrifice sur le bois maudit. C'était pour mes péchés et ceux de l'humanité entière qui croisent en toi. Quand tu as déclaré, Seigneur, prophétiquement, mes iniquités sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête. Seigneur, fais-nous remémorer de ces choses si excellentes de ta parole pour nous montrer jusqu'où ton amour a été pour moi, pour me délivrer, pour me pardonner, pour me donner un avenir aussi glorieux que celui que tu me donnes aujourd'hui, celui de croire que très bientôt, nous serons tous ensemble, enlevés sur la nuée, à ta rencontre. Oui, de mes yeux, je verrai Jésus. Oui, je le contemplerai, et moi, et non un autre, à te faire déclarer par un de ces prophètes de ta parole. Merci, Seigneur, parce que je le crois. De la même manière, nous te verrons, Seigneur, dans ta splendeur inaltérable, et tu as, par ta vie donnée, tu nous as acquis une part aussi glorieuse que celle d'être à jour, pour toujours, près de toi. Sois éternellement, éternellement béni. Et merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes et la faveur dont nous sommes les objets, les uns et les autres, par ta grâce, par ton amour, par ton sacrifice accompli. Nous glorifions notre Dieu en ton nom béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen.